Donc on a décidé de rajouter encore une dernière chose sur le point de la partie précédente en ce qui concerne la Kabbalah. Et celle, je connais pas votre nom, c'est pour ça que j'ai...
Denis Lévy, voilà. Ok, alors en fait,
c'est vrai, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'il faut dire que la Kabbalah, c'est exactement le contraire de ça. C'est-à-dire que cette dynamique, ou en fait, cette axiomatique du roi, etc., telle qu'elle est décrite, en fait, c'est vraiment la réponse du Talmud à la Kabbalah, qui verrait en fait une unification à Dieu à travers l'unité ou à travers les sphères ou les choses pareilles. Et ça serait vraiment, c'est-à-dire que d'une manière, on va dire, plus figée, moins, on va dire, plus figée, alors que le Talmud, il envisage en fait le rapport à Dieu dans une sorte de dynamique, pas dans un rapport en fait qui serait en fait temporellement stagnant ou fixé dans le temps. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, donc, je passe à la deuxième partie, c'est vraiment pour moi, faut vraiment pas prendre, c'est pas que je pense pas qu'il faut prendre au sérieux ce que je dis, je sais pas du tout, peut-être je vais dire vraiment des âneries complètes. Donc, n'ayez pas peur de le dire, hein, c'est peut-être vraiment n'importe quoi. Mais je me dis, comme il y a justement beaucoup de savants ici, donc peut-être que vous allez peut-être être capable même de prendre à travers des âneries, en fait, quelque chose qui est vrai, j'en sais rien. Donc, c'est vraiment pour vous, apprendre et à laisser, ou en tous les cas, ou peut-être à s'inspirer, peut-être. Donc, c'est simplement pour, parce que M. Jean-Michel Zalansky, il avait parlé, donc, dans son intervention, sur le rapport, en fait, dans l'universel et au domaine, dans les mathématiques et dans la logique. Il avait dit, en fait, la logique, on la retrouve partout dans le langage. Il n'y a pas de langage qui pourrait ne pas être logique. On la retrouve dans les sciences, etc. Donc, il avait parlé de l'universalité qu'il y avait dans la logique, et dans la science, etc. Ensuite, il avait cité, je pense, Tarski, qui parle en fait de la nécessité qu'il y avait de créer un domaine pour pouvoir démontrer une théorie en mathématiques. Et je dis bien la chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en fait créer un domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer, on va pas entrer dans les textes. Moi-même, je vais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut en fait démontrer une théorie en mathématiques, on peut la prouver. On est obligé de fixer en fait un domaine, même si la théorie elle-même elle est beaucoup plus large, pour pouvoir en fait faire la démonstration qui va permettre de prouver que la théorie elle est vraie ou fausse. Et donc c'était là où est-ce qu'il avait arrêté en fait le rapport entre le domaine, on va dire et l'universel, que ce soit dans les logiques, ou dans les mathématiques. Je vais dire simplement le but de ma l'idée en fait l'idée que moi je vais essayer d'avancer là-dedans, c'est que je pense qu'en fait la nécessité de créer un domaine d'application, un domaine, on va dire, de définir un domaine, lorsqu'on va faire une théorie en fait mathématique. C'est ça justement qui fait qui crée en fait la limite entre la logique et les mathématiques ou les sciences. Je vais expliquer vraiment la chose que je pense. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense qu'elle est vraie. C'est que, à mon avis, on a raison de dire en fait que la logique est partout, elle est universelle et qu'il ne peut pas y avoir de langage sans logique. Donc c'est vrai que tout langage doit s'articuler à travers une logique. Mais en fait, la logique ne peut pas créer de langage. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, en fait, à travers la logique, créer un nouveau langage, ajouter un langage, si le langage n'est pas préexistant, dans le sens où, en fait, le fait qu'il y ait un langage, c'est-à-dire que c'est déjà, en fait, un domaine. C'est-à-dire que, pour dire en deux mots vraiment l'idée que je veux développer, c'est que la logique, elle devient créatrice, ça veut dire qu'elle devient capable de faire une déduction. Ça veut dire que toute déduction logique implique en fait la création d'un domaine. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la logique, il y aurait en fait deux. C'est peut-être une évidence, j'en sais rien, mais c'est-à-dire que dans la logique, il y aurait deux. On va dire deux branches de la logique. Il y aurait la logique en fait descriptive, on va dire, qui serait en fait, qui décrirait un état quelconque en disant voilà, en fait, ça c'est plus grand que ça, ça c'est plus petit que ça, ou voilà, les relations, ça c'est différent que ça, et des choses pareilles. Et donc, ça serait une logique, mais à partir de laquelle, avec la logique, ça veut dire, dans le système logique lui-même, il y a une incapacité, en fait, de faire avancer la logique et de faire une déduction à partir d'un système logique observé pour aller dans une autre étape si on ne définit pas un domaine. Voilà, c'est ça ce que je veux parler. Et pour moi, l'avantage qu'il y a là-dedans, ça veut dire, pour quand dire, quel rapport avec Rosenzweig et l'école de la rédemption, c'est que rien à voir. Et c'est pas un rapport du tout transcendant, ni rien du tout. Pour moi, d'ailleurs, c'est pour reprendre en fait l'idée de débat qu'il y avait avec Jean-Michel Salancy, ça veut dire que ce que ça permet en fait, si on pense comme ça, si on réfléchit comme ça, ça permet en fait de rétablir la place d'Israël dans l'histoire, pas simplement comme une sorte de témoin, on va dire, ou comme de personnage, enfin de protagoniste figé, de témoin, etc., tel qu'elle est en fait, telle qu'elle est décrite en fait dans l'Étoile de la Rédemption, mais comme une partie active, en fait, comme étant une nécessité. Comme quelque chose qui est vraiment qui est créateur justement de l'histoire et de la raison. Voilà, à peu près c'est ça, c'est à peu près ça. Et voilà, c'est la première chose, c'est ça l'idée que je vais développer. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Moi, je vais essayer, je ne sais même pas si c'est vrai ou faux, j'en sais rien, mais je le dis quand même, et vous décidez. En fait, donc, la question sur laquelle je suis parti, en fait, c'est une idée complètement peut-être biscornue et idiote. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a demandé avant, mais c'est en fait pourquoi le théorème de Gödel ne s'applique pas à Gödel lui-même. C'est-à-dire, et pour moi c'est une question, mais je pense que, oui, elle est complètement évidente, elle a déjà été demandée 10 000 fois, mais j'ai vu des réponses chez personne. C'est-à-dire que, pour expliquer en deux mots ce qui se passe, c'est que Gödel, il dit en fait une théorie, j'ai obligé de les énoncer, enfin si vous voulez, moi je suis très nul en maths, et donc moi, je devrais lire l'énoncer en fait, et ne pas l'écorcher, etc. Mais grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est que n'importe quelle théorie mathématique, axiomatique, en fait, elle a besoin en fait d'une autre théorie pour se démontrer quelque part, une théorie cadre, enfin, c'est mal exprimé, très mal exprimé, moi je vais le lire comme ça, je suis en train de me faire massacrer. Donc l'énoncé en fait tel qu'il est dans Wikipédia de
Laurent mathématicien la résume.
Voilà, c'est le, voilà. Ah oui, voilà, c'est le.
Michel Salancy, vous voulez peut-être la résumer.
Il n'y a plus de théorie suffisamment riche capable de démontrer sa propre existence. Une théorie suffisamment riche est capable de coder ses procédures déductives, et donc elle est capable d'exprimer sa consistance, mais elle ne peut pas la démontrer. Donc ça c'est le second en fait. Mais j'ai suivi, notre conférencier a parlé du second, donc j'ai explicité le second. Le premier, ça consiste à dire que une théorie suffisamment riche contient forcément un énoncé indécidable si elle est consistante.
En fait, elle était dit, ce qui est important, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'énoncé, il parle d'une vérité, c'est ce qui nous rappelle un petit peu avec le livre d'Annie Trump, c'est qu'il parle d'une vérité axiomatique. Parce que pour moi, en fait, il est resté sans cette histoire de l'axiomatisme. Ça veut dire qu'en fait, quand Gödel a dit ça, il n'a pas dit ça comme une phrase philosophique, il n'a pas dit en fait, il n'a pas énoncé en mots, il a fait tout un système de codification qui s'appelle, je sais pas, la factorisation de Gödel, qui est la partie super compliquée à comprendre au niveau technique, et qu'en fait, il a dit ça en fait d'une manière comme une équation mathématique, axiomatique, dans le sens axiomatique, ça veut dire A est différent de moins A ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire où il y a un blanc et un noir, quoi. Etc. Donc lui-même, il a lui-même codé, en fait, il a lui-même énoncé ce théorème comme une vérité mathématique, pas comme une. C'est pour ça que pour moi la question elle se pose vraiment. C'est-à-dire que s'il n'avait pas énoncé ce théorème d'une manière mathématique, alors on aurait pu dire, ben voilà, c'est un principe philosophique. Ok, tant mieux, c'est super. Mais une fois que lui-même, et c'était ça en fait la peur principale qu'il avait, à mon avis, dans la façon de théorème, c'est justement de le coder d'une manière mathématique et de l'énoncer d'une manière mathématique et d'en faire une vérité axiomatique. Donc en fait, la question elle se pose, si c'est vrai, alors en fait, ça devrait être une vérité qui se dit elle-même. Ça veut dire, comment on peut affirmer qu'en fait une vérité, elle n'a pas les propres moyens de sa propre vérité, en étant un théorème mathématique, en étant une vérité axiomatique. Si on dit ça, ça veut dire que toi-même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en disant ça, en fait, tu admets que c'est assez arbitraire, puisqu'il faudra encore se référer à une autre théorie mathématique plus grande pour pouvoir le démontrer. Or, le fait que lui-même, il utilise ça comme une théorie cadre qui va en fait justement s'appliquer à tous les mathématiques, ça implique en fait d'une manière non dite que le théorème de Gödel ne s'applique pas à Gödel. A priori, je pense qu'elle dit ce qu'il nous faut, ouvrir.
Vous voulez aller au bout de votre idée.
Qu'est-ce qui m'intéresse avec ça si on dit que pourquoi le théorème de Gödel s'est fait à des états axiomatiques. Donc pour moi, en fait, à mon avis, c'est parce qu'il manque en fait une sorte de... Dans les axiomes du théorème, c'est-à-dire dans les conditions qu'il donne, il manque en fait une condition. C'est-à-dire que, encore une fois, je n'ai pas le texte, en fait, j'ai le texte devant moi, blablabla. On ne peut pas simplement dire... Quand il dit dans n'importe quelle théorie récursivement axiomatisable, cohérente et capable de formaliser l'arithmétique, on peut construire un énoncé d'arithmétique. On peut construire un énoncé arithmétique qui ne peut ni être démontré ni réfuté dans cette théorie. Et en fait, ce qui manque dans cette théorie, il manque une condition, une autre condition, c'est qu'en fait, si cette théorie mathématique, elle veut créer un nouveau théorème. Elle veut permettre de créer un nouveau théorème. C'est pas simplement en fait dans une vérité axiomatique, exclusivement axiomatisable, que le théorème de Gödel s'applique. À mon avis, il s'applique uniquement dans le cas où, à partir de ce théorème, on pourrait créer d'autres théorèmes ou d'autres, on pourrait faire des déductions. Mais si jamais en fait on parlait, la raison pour laquelle en fait le théorème de Gödel il s'applique pas à Gödel, c'est parce qu'en fait on peut rien en déduire. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une déduction logique qui dit en fait. Même si c'est axiomatisable et récursif, le fait de dire qu'une théorie, elle peut être comprise qu'à travers une autre théorie plus grande, etc., ou qu'elle a des choses indécimables, ok, et après, ça s'arrête là. Il n'y a pas, en fait, qu'on ne peut pas créer un nouveau principe mathématique à partir de là. Donc, comme cette axiome, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le théorème de Gödel ne peut pas s'appliquer à Gödel lui-même, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas faire une déduction à partir du théorème de Gödel. Ce qui veut dire, ce qui revient à ce que je voulais dire depuis, ce que je vous avais dit au début, c'est qu'en fait, dans la déduction logique, en fait, on est obligé, ça veut dire, ce qui permet en fait de passer d'une logique analytique à une logique, on va dire, où on fait une déduction, où on pourrait faire des déductions, en fait, c'est la création d'un domaine. On est obligé en fait de dire en fait, dans tel et tel espace T, dans telle et telle condition X, Y, si telle et telle, on va dire, si on a défini un domaine dans lequel on a énoncé notre logique, à ce moment-là, on peut en faire une déduction. Si jamais on ne fait pas cette mise en, ça veut dire, on ne crée pas ce domaine dans lequel on encadre la logique qu'on a énoncée, je suis de vous faire bailler, etc. Mais en fait, on serait incapable en fait de faire avancer la logique. Pour donner un exemple, tu vois, hein, pour expliquer, par exemple, dans le paradoxe de Zénon. Par exemple, vous savez, donc l'histoire de celui qui court après la tortue, qui n'attrapera jamais la tortue, parce qu'il doit d'abord franchir la moitié, en fait, du chemin. On pourrait dire, en fait, que dans l'argumentaire logique, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Ça veut dire, c'est vrai, en fait, que si on suit la logique à fond, c'est vrai qu'en fait, celui qui court après la tortue, il ne pourra jamais rattraper la tortue, parce qu'il va d'abord parcourir la moitié du chemin de la tortue, et que d'ici là, la tortue, elle aura encore avancé. C'est vrai. Sauf que, c'est-à-dire la logique elle-même, elle est vraie, sauf qu'on ne peut pas faire une déduction de dire donc la personne ne rattrapera jamais la tortue. Parce que pour pouvoir faire une déduction logique à partir de quelque chose qu'on observe, il faut dire si on considère deux éléments ayant une vitesse T ou temps et temps. C'est tant qu'on n'a pas en fait, on n'a pas encore, ça veut dire, défini le domaine d'application d'une théorie, en fait, la logique, elle reste en fait, si tu veux, stérile, on va dire. Elle reste une observation, elle reste en fait peut-être vraie, mais elle reste stérile. La déduction, elle est possible que si jamais en fait on définit un domaine d'application à la base. C'est à travers la définition d'un domaine d'application que finalement on peut créer des déductions. Pour moi, c'est-à-dire, pour revenir, c'est l'histoire du paradoxe de Russell, où c'est-à-dire, on pourra prendre l'exemple le plus simple avec l'histoire du barbier. C'est un barbier qui va raser tous les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Est-ce qu'il va se raser lui-même? L'idée, elle est justement de dire que c'est vrai. En fait, logiquement, on pourrait dire oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur. Au niveau de la logique, on pourrait dire voilà, le barbier, il décide de raser tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Maintenant, à partir du moment où on va dire est-ce qu'il va se raser lui-même, tu es obligé de dire, si tu veux faire une déduction logique et dire et décider est-ce qu'il se rase ou il ne se rase pas, tu es obligé de dire soit de mettre une condition à condition que le barbier lui-même ne se rase pas ou à condition que le barbier lui-même se rase. Mais c'est-à-dire que ça fonctionne tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que les mathématiques, ça veut dire ce qui crée, c'est-à-dire que l'incohérence logique des mathématiques, ça veut dire l'incapacité qu'on a en fait à prouver la logique, c'est-à-dire que Russell et tous ceux qui ont travaillé pour prouver les mathématiques à travers la logique, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas un problème, en fait, aux mathématiques, c'est pas un problème qui est inhérent aux mathématiques, c'est un problème inhérent à la logique elle-même. C'est-à-dire que la logique, comme je dis, la logique ne peut pas créer de langage, la logique, elle ne peut rien créer, la déduction logique, elle ne devient valable, elle ne devient possible que si, en fait, on crée un domaine. Et à ce moment-là, c'est une fois qu'on accepte ça, on peut tout à fait redémontrer les mathématiques par la logique. Puisque tout le problème, c'est à chaque fois pourquoi est-ce qu'on crée un domaine, etc. Et moi, tu vois, pour moi, je ne sais pas si je dis, bon, bref, c'est ce que je pense. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, donc maintenant pour revenir avec l'histoire de Rosenberg, donc vous voyez, c'est très court cette intervention, c'est pas du tout très long. Peut-être que les réactions sûrement qui existent d'être beaucoup plus longues. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, donc pour expliquer en fait l'idée, pour moi, à mon avis, puisque en fait, la conférence qui avait été donnée par M. Salansky, c'était au sujet en fait de l'universel et du particulier, etc., et du rôle du judaïsme qui en fait s'affirme comme étant quelque chose de non universel. Et en fait, donc Rosenzweig, quand il a voulu analyser cette histoire de la non universalité d'Israël, pour lui en fait, il a dit que ça pouvait s'expliquer uniquement si on figeait en fait Israël dans un rapport à la terre, dans un rapport à l'éternité, ou dans un rapport où il s'absentait de l'histoire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est comme une sorte de peuple témoin. C'était en fait une reprise en fait de cette idée de l'évangile du peuple témoin, et en fait un petit peu romancé, on va dire. Mais en réalité, il s'excluait de l'histoire, une histoire qui elle était en fait n'avait rien de logique, on va dire, derrière, puisque voilà, c'est une chose, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'était l'histoire en fait pour Rosenzweig? C'était en fait une histoire hegelienne, c'est-à-dire en fait pour Hegel, pour expliquer ça en deux mots, comment est-ce que l'histoire elle fonctionne? Là encore, je ne suis pas philosophe, donc encore je parle de choses que je ne connais pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans la dialectique hegelienne, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est pas qu'il y a un mouvement, ça veut dire qu'il y aura un déplacement en fait véritablement des problématiques. En fait, plutôt les problématiques, elles s'expriment différemment. Pour dire en deux mots comment ça se fonctionne, c'est-à-dire ce qu'il appelle dans la dialectique, c'est qu'il y a des problèmes qui existaient depuis toujours, qui ont toujours existé, mais en fait, on est toujours dans un l'histoire, elle tourne, et donc les problèmes, ils se posent différemment, et donc l'histoire, elle évolue dans un système dialectique où on penche toujours d'un côté ou d'un autre pour essayer de rétablir en fait des réponses, on va dire, ou des solutions à un problème qui se pose en fait depuis la nuit des temps, si on veut, un ou plusieurs problèmes liés à la relation à l'autre, etc. C'est-à-dire que c'est comme ça que Hegel il voit en fait la vision de l'histoire, et pour en fait Rosenzweig, ça c'était en fait le chemin du christianisme et des nations et de l'universel, alors que le peuple d'Israël, lui, il est basé, il est en fait figé sur des réalités qui sont complètement éternelles et absents en fait de cette dialectique, etc. Moi, je pense, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu proposer, pour expliquer en fait, moi, à mon avis, je pense que dans le judaïsme, en fait, le Talmud, pour prendre l'histoire du Talmud, la manière de réfléchir du Talmud, elle est complètement anti-hegelienne, donc elle est anti-dialectique historique hegelienne. C'est-à-dire que pour le Talmud, les auteurs, en fait, dans leur dialogue, etc., ou dans leur logique, en fait, dans les discussions en fait de la logique du Talmud, ce ne sont pas en fait des problèmes ou en fait, c'est-à-dire des problèmes d'expression ou des problèmes en fait d'envisager un problème et de le retourner de différentes manières dans une manière dialectique, mais c'est en fait au contraire une manière de penser axiomatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque c'est A différent de moins A, et en fait tout le développement qu'il y a dans le Talmud, il est toujours en fait fait sur en fait une sorte de développement de logique axiomatique où en fait on essaye pas de redéfinir en fait ce qui articule l'axiome, ce qui articule les différentes vérités, mais plutôt de retravailler en fait et d'analyser la logique qu'il y aurait en fait dans ces relations axiomatiques. C'est-à-dire que, pour expliquer en deux mots, c'est-à-dire que dans le Talmud, un auteur du 5e siècle ou du 15e siècle, il peut lire en fait le Talmud ou la Bible De la même manière, c'est-à-dire en comprenant ce que Moïse a voulu dire quand il a écrit la Bible. Ça veut dire, c'est-à-dire que selon Hegel, pour expliquer en deux mots, selon Hegel, par exemple, Rachid ne peut pas avoir compris la Bible. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand Moïse a écrit la Bible, il l'a écrit à une certaine époque, à un certain moment, avec certains problèmes, certaines choses. En fait, même si ensuite ces problèmes, ils ont évolué, c'est toujours les mêmes. Donc, d'une certaine manière, Rachid peut dialoguer avec la Bible, il peut interpréter la Bible, il peut l'avoir comprise, si on veut, par rapport aux dynamiques de son époque. Il peut, on peut dire, avoir été part, il fait partie même du discours de la Bible, mais en tout cas, il ne peut pas l'avoir comprise. Parce qu'en fait, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de dialogue possible, de lecture possible, d'ouverture possible d'une époque à une autre, on va dire. Si on saute des siècles, c'est difficile à expliquer, mais disons, il y a un dialogue, il y a une compréhension, ça veut dire, quand on étudie les Grecs, on ne peut pas comprendre les Grecs tels que les Grecs avaient formulé leur théorie pour des Grecs. Maintenant, on peut apprendre quelque chose, en fait, dans la continuation des Grecs, on peut être dans la dialectique historique, mais on ne peut pas être dans un véritable dialogue avec eux. Alors que dans le Talmud, il y a comme une sorte de la relation à l'histoire du Talmud, c'est une relation complètement bizarre, si on veut. Puisque, en fait, l'histoire, elle est presque aplatie. Ça veut dire, on pourrait faire parler Rashi, on pourrait le faire parler avec un auteur, avec Ravashi, qui a été à plusieurs siècles avant, ou etc., ou un auteur du 19e siècle, qui dialogue avec Rashi, etc., pas simplement en voulant l'interpréter et en retrouvant une dialectique avec lui, mais carrément en essayant, en se mettant dans un dialogue, on va dire, axiomatique et de discussion avec lui. Maintenant, donc, ce que moi j'ai voulu dire, c'est la chose suivante. C'est pas l'idée que je voulais dire, c'est l'idée que je sais pas complètement. Et quand je sais pas si c'est compréhensible, mais en réalité, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, la dynamique qui existe entre Israël et les nations, ça veut dire entre l'universel et le particulier, etc., si on prend Israël comme étant le nom universel, c'est justement Israël qui permet en fait de définir le domaine et qui permettrait en fait à des vérités axiomatiques ou à la logique, des vérités logiques, de devenir féconde et d'avancer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'à mon avis la logique elle peut devenir en fait elle peut faire des déductions que si jamais on a d'abord défini on a défini en fait cette logique dans un domaine, on l'a sorti de l'universel et à ce moment là donc la déduction devient possible. Et donc, à mon avis, la dialectique qui est entre Israël et les nations, c'est pas une dialectique, en fait, d'une vérité figée dans l'histoire qui ne bouge pas, qui est liée à la terre ou des choses pareilles, versus une vérité qui serait, en fait, dialectique comme Hegel, c'est-à-dire comme un déroulement de l'histoire avec des problématiques éternelles qu'on ne fait que revivre, etc., dans des modalités différentes ou réexprimer dans des modalités différentes, mais plutôt, en fait, une vérité, ça veut dire une vérité dynamique, ça veut dire une vérité dynamique liée en fait à une logique presque axiomatique, puisqu'en fait la logique existe, la raison existe, etc., qui est possible, qui est capable, qui est rendu possible grâce en fait à la définition, à la définition que donne Israël à l'universel. Et c'est dans ce dialogue, en fait, dans ce dialogue, à chaque fois qu'il y a en fait entre Israël et les nations, c'est-à-dire entre la logique de l'universel et la logique en fait du domaine, ou en tout cas le domaine d'application de cet universel, qu'en fait la science ou la philosophie ou vraiment l'histoire avec un grand H peut s'accomplir. C'est ça ce que je voulais dire. Donc j'ai simplement donné à la fin comme je sais pas si c'est clair ou pas clair, c'est complètement fou, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de le dire, donc je l'ai dit, et parce que aussi c'est à cause de ce que vous avez dit que moi j'ai vraiment aimé tout ce que, en toute autre manière d'appréhender les choses, etc., mais bien que je comprends vraiment les points d'achoppement, ça veut dire je comprends tout à fait. Je sais que vous êtes pas rabbin, on va le dire en deux mots. Voilà, donc ce que je veux dire, pour moi c'était ça, c'était important de comprendre. Pour moi c'était ça en fait, cette idée-là que, voilà, que je voulais dire. Ah oui, j'ai fermé l'histoire de Jacob et Esav pour expliquer l'histoire du déhanchement, donc du combat de Jacob avec l'ange, qu'en fait l'ange en fait c'était l'ange d'Esav, et en fait dans ce combat en fait il y a un déhanchement qui se passe. Donc c'est-à-dire que c'est la démarche, c'est à travers ce déséquilibre que la marche elle peut arriver. C'est-à-dire, je pense que même dans le Gaon de Vilna, il parle de ça sur l'histoire de Hanouka, avec l'histoire du fait qu'il y a eu un déhanchement qui a été fait dans le combat avec Esav, et que ces déhanchements-là, en fait, ils créent en fait la possibilité d'un mouvement et du fait d'avancer. Donc ce déhanchement serait justement l'histoire de l'universel et du domaine. Voilà, et peu importe. Maintenant, cette fécondation, elle peut se passer soit chez le juif, soit chez le non-juif. Mais techniquement, dans le cerveau de n'importe lequel des deux protagonistes. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans cette opposition, on va dire, que en fait, l'histoire peut avancer, non pas simplement d'une manière dialectique comme égale, mais dans une manière vraiment presque, on va dire, de vérité axiomatique. Voilà, en fait.
Bon, vous avez compris, mon boulot, d'après moi, c'est toujours juste de réexposer l'exposé. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai fait ça avec mes collègues pendant des années. Je ne sais pas si c'était toujours apprécié. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a deux moments, de nouveau, dans ce que vous nous proposez. Il y a un moment interne au champ logico-mathématique, et ensuite, il y a un moment sur Israël. Dans le moment qui est interne au champ logico-mathématique, ce que vous voulez élucider, c'est le rapport qu'il y a entre la logique comme discipline et les théorèmes de Gödel et la possibilité d'une dynamique, d'une novation à l'intérieur du champ logico-mathématique lui-même. Et donc là, vous avez tendance à construire une opposition où le mauvais, c'est la logique, et le bon, c'est les mathématiques. C'est-à-dire que la logique, vous insistez sur le fait que par elle-même, elle n'est pas capable de dynamisme, vous dites de déduction, même ce qui est terrible à entendre pour un logicien. Donc en fait, ce que vous appelez déduction, c'est qu'elle n'est pas capable de produire l'énoncé nouveau, vraiment. Bon. Et donc, vous reprenez ce que j'ai dit dans la conférence, c'est-à-dire que chez Tarski, quand on vérifie un énoncé, on le vérifie dans un domaine. Vous dites, pour qu'on ait la novation, il faut qu'on ait le domaine. Et implicitement, on comprend que ce qui nous donne le domaine, c'est la mathématique plutôt. Tandis que la logique, elle nous tiendrait dans l'éternité et la fermeture du langage, mais du langage acquis, stable, stabilisé. Et ensuite, vous passez au cas d'Israël, et là, vous revenez sur Rosenzweig, et ce que vous comprenez, c'est que Rosenzweig, il veut opposer la situation d'Israël avec la situation historiciste de l'humanité non-juive, mais la situation historiciste de l'humanité non-juive pour Rosenzweig, si elle est historique, cette situation de l'humanité non-juive, si elle est en marche, si elle est en mouvement, c'est sur le mode hegelien de la dialectique. Et donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a dans l'histoire d'Israël une dynamique, donc il y a une histoire, contrairement à ce que dit Rosenzweig, mais cette histoire est non-hegelienne. Et pour préciser ce que c'est que cette histoire non-hegelienne d'Israël, ce que vous dites finalement, c'est deux choses. C'est que d'une part, c'est une histoire intellectuelle, là vous prenez les grands maîtres, les décisionnaires, vous prenez Rashi, Ravashi, etc. Bon. Et ce que vous dites, c'est qu'une partie de ce qu'ils font, c'est qu'ils réinterprètent le cadre conceptuel d'une axiomatique. C'est vrai qu'il y a une axiomatique, mais les maîtres successifs réinterprètent les concepts qui sont impliqués dans cette axiomatique, ils rééclairent leurs relations, etc. Donc comme ça, il y a une dynamique dont on a l'impression qu'elle est, que la logique a enfin trouvé sa dynamique qui lui était déniée dans la première partie de votre présentation, mais c'est une logique qu'on connaît, nous en philosophie, c'est la logique herméneutique. Qu'est-ce que c'est que ce mode d'avancée de l'esprit où on avance par réinterprétation de ce qui est déjà donné? C'est exactement une des manières de définir la herméneutique. Et à ce moment-là, je fais un peu de propagande, un quart d'heure de promotion, un petit intervalle promotionnel. Il faut lire mon premier livre, qui a été réédité en 2013, L'herméneutique formelle, où j'explique ça. J'explique ce mode de l'esprit, qui est le mode herméneutique, et j'essaie d'expliquer que ça fonctionne dans les mathématiques. Ça n'est qu'une moitié. Une moitié de ce que vous dites, c'est que Israël a une dynamique historique qui se produit sous cette forme, réinterprétation des concepts qui sont dans l'axiomatique. Mais la deuxième chose, ce que vous dites, c'est que c'est aussi cette élaboration, c'est la construction d'un domaine. Et ça, vous précisez pas tellement ce que vous voulez dire par là. On pourrait dire que le domaine, c'est le peuple juif, tel qu'on peut le projeter à l'idéal, c'est-à-dire vivant selon une justice parfaite. Donc on peut dire que le domaine que construit Israël dans son histoire, ce serait la Jérusalem terrestre, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour, vous dites, c'est une grande histoire, c'est une histoire qui est capable de novation, pour ces deux raisons, à la fois parce qu'elle construit un domaine et parce qu'elle réinterprète sans arrêt les concepts qui sont engagés dans le jeu axiomatique. Donc voilà tout ce que j'ai entendu. Oui, alors après, dans cette manière de présenter Israël, le particularisme d'Israël, il devient, déjà, on voit bien que c'est un don à l'universel, parce que tout le monde devrait fonctionner comme ça, si on vous écoute. Donc
je pense que l'universel doit exister, c'est le domaine, si Israël est celui qui gère le domaine, au fond, il peut...
Moi, je voudrais juste revenir sur la première partie, parce que en fait, il y a toute une traduction de la lecture des théorèmes de Gödel qui va plus ou moins dans ce genre de direction. Il y a énormément de gens qui ont compris les théorèmes de Gödel comme étant l'annonce d'une liberté mystérieuse qu'il y avait dans l'indécidable et que grâce à l'indécidable, tout était ouvert. Bon. J'ai même cité des choses, c'est juste pour mettre de la chair, hein, mais un exemple, moi, dont je me souviens toujours avec... je suis encore choqué par cet exemple, mais un jeune homme, par ailleurs, probablement extrêmement talentueux et brillant, qui depuis a écrit des livres... s'est trouvé avoir été étudiant dans notre université avec Catherine il y a longtemps et il m'avait rendu un devoir sur le théorème de Gödel son commentaire c'était que grâce au théorème de Gödel on avait évité la solution finale, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu d'énoncé indécidable dans sa description, on se trouvait piégé dans une solution finale parce que tous les énoncés fermés qu'on pouvait écrire dans le langage de l'arithmétique, par exemple, de PA, et forcément, soit ils étaient déductibles, soit non déductibles. Bon, alors, moi, personnellement, mon feeling de ce que j'appelle la solution finale ne se reconnaît pas dans cette hypothèse. Donc, j'avais mis 6 à cet étudiant. Et je trouve... Non, mais écoute, il y avait des choses correctement écrites. C'est toujours pareil, c'est le problème de l'enseignant. Tout ça pour dire que moi, j'ai une résistance à cette dramatisation et j'ai une résistance au fait de mettre la logique dans la posture du mauvais personnage. Je pense que, bon, si on regarde le développement contemporain de la logique, les logiciens ont incroyablement inventé des langages. Les gens qui inventent... En fait, on peut même dire que les spécialistes de l'invention des langages, c'est les logiciens. De nos jours. Donc je ne m'accorderai pas décrire la logique de cette façon-là. La mathématique est incroyablement créatrice, mais c'est jamais sous la forme d'une opposition polémique quelconque avec le cadre logique. C'est, au contraire, ce qui est bizarre dans la mathématique, c'est que en fonctionnant de manière correcte, logique, sans faute, sans faille, eh ben, on développe une littérature fabuleuse. Il n'y a pas de littérature plus grande, plus extraordinaire que la littérature mathématique. Si vous regardez ce qui a été fait depuis 1945, il y a de quoi combler les rêves de toute l'humanité. Je veux dire, on n'a même pas le temps de rattraper tout ce qu'ils ont inventé. Ils ont inventé des milliards de mondes et chacun de ces mondes est captivant pour toute une vie. Donc il faut prendre la mesure de ça, que l'exercice le plus réglé, le plus rigoureux, le plus respectueux des règles qu'il a fixées au départ, est en même temps le plus imaginatif. Ça, c'est des faits. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, il faut pas opposer, à mon avis, la mathématique et la logique de ce point de vue-là. J'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là.
Avec lui l'idée que le pauvre Gödel, d'abord lui-même, sa propre vie, mais laissant de côté sa propre vie à lui, il a donné lieu à des choses de grandes sottises, hein, je veux dire. on en arrivait chez des philosophes ou des scientifiques ou toutes sortes de métiers, c'était une savonnette. Moi, j'ai dit une chose, mais en même temps que j'ai dit une chose, il y a quelque chose d'autre qui le dit à ma place, et bon, ça ne disait plus rien. Mais je sais que tu le dénonces, et tu le dénonces parfaitement bien, il n'y a pas photo là-dessus. Simplement, la question que je me pose, c'est en rapport avec les propositions de Rav Jess, en quoi ça peut faire, ça peut enrichir, ouvrir, entendre le fonctionnement de ta musique. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé ces questions et qui respecte beaucoup ce lieu, c'est Lionel Nakache aussi, venant d'un autre domaine qui est celui des neurosciences, mais les neurosciences ont à voir un petit peu avec d'autres domaines, mais peu importe. Et il y a une autre personne, on en parlait encore, c'est Henri Atlan qui a fait beaucoup cas de l'idée que bon, la Kabbale était une axiomatisation et des choses de ce genre. Il y en a tellement que moi, je finis par m'y perdre et je disais à voix basse, à Villette, mais je le dis puisqu'on est entre nous, je m'en fous un peu de Gödel, mais c'est juste entre gens du monde, entre nous, c'est-à-dire je ne peux pas lui prêter plus que ce qu'il donne, et ce que tu en dis est magnifique, est ouvert, il n'y a pas de doute, tu le sais, on en a souvent parlé. Mais arrivons pas au déluge, justement, puisque on est après le déluge. Voilà, c'est ça la question que je pose à Rav Avigdor.
Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une vérité, comme vous dites. Pour moi, c'est important parce que ça existe dans le Talmud. Et en fait, quand on. Pour dire en tant que étudiant du Talmud, ce qui est frustrant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on comprend pas. Est-ce qu'on comprend pas? C'est pas vraiment qu'on comprend pas les mots, c'est pas qu'on comprend pas les idées, c'est qu'on comprend pas la logique. Il y a quelque chose en fait dans la logique du Talmud qui échappe à même, c'est-à-dire. Et pour moi, donc, c'est-à-dire la plupart, c'est-à-dire ce qui s'est passé, la plupart des commentaires, ça veut dire, ils essayent en fait de fuir cette. Cette fenêtre, si vous voulez, cette brèche qu'il y a en fait dans la logique du Talmud. Mais il y a très peu en fait qui ont vraiment travaillé dessus. Ça veut dire en fait le seul vraiment. Oui, voilà, il a essayé, il a proposé, mais ça marche à moitié, ça marche difficilement. Oui, c'est vrai, il y a le Sefer HaGaon, le livre de la logique du Rabbi Sato, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette fois-ci un livre de logique vraiment basé sur le Talmud, etc., pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie de parler, mais disons que, en fait, c'est-à-dire que moi, je sais, après, bon, à mon avis, c'est-à-dire que la plupart des livres du Rabbi Sato, ce qu'ils font, c'est qu'ils décrivent quelque chose. Ça veut dire, donc il y a une grande description, c'est toujours très descriptif, c'est comme si vous voyez même, prenez le Messilat Yesharim, etc., il va vous décrire c'est quoi la sainteté, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Bon, mais après, pourquoi? Et là, on ne sait pas. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est vrai que c'était déjà une première étape, c'est pour ça que le livre de la logique du Rabbi Sato, c'est vraiment un livre important. Moi-même, j'aime beaucoup l'étudier avec mes élèves, etc., et surtout qu'il a été traduit en anglais maintenant, et donc ça me permet de... mais en fait, c'est vrai qu'à mon avis, il manque quelque chose derrière. Et donc c'est sûr que le problème, c'est que voilà, moi, j'ai pas de formation de logicien, ni rien du tout, ni de mathématicien, et en fait, c'est pour ça que moi, je voulais surtout, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment est-ce que vous allez réagir. Moi, je suis très intéressé, vraiment très content de ce que vous avez dit. Parce que pour moi, ça me permet déjà de. Je vais regarder votre premier livre et je vais essayer aussi de. Ça me permet vraiment aussi de vous. D'avoir une critique, etc. Je sais pas. C'est-à-dire, je vais réfléchir à ce que vous dites, etc. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est un problème qui me passionne. Je pense qu'en fait, on peut pas vraiment. Je pense que ça. Voilà. Je pense qu'il y a une clé derrière. Il y a quelque chose, en fait, à mon avis, qu'il y a une clé qui manque. Il y a comme une sorte de clé d'interprétation. Tant qu'on n'aura pas cette. Quand on n'aura pas vraiment pu définir vraiment et comprendre quelle est la logique du Talmud au fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui unifie la logique du Talmud, c'est quand on regarde le livre du Gaon de Rabbi Sato, c'est qu'il n'y a pas de principe unificateur. C'est dire, voilà, il y a une sorte de logique comme ça, il y a une sorte de logique comme ça, il y a une sorte de logique comme ça. Ah, elles ne fonctionnent pas ensemble, c'est pas grave. Pourquoi le Talmud il a choisi à ce moment-là d'utiliser cette manière de réfléchir plutôt que celle-là, il y a un autre endroit le contraire, on ne sait pas. Donc à mon avis, il faudrait en fait rechercher quelque chose, une théorie plus cadre. Ça veut dire pour pouvoir comprendre en fait l'arithmétique du Talmud. Voilà. Pour moi, Voilà, c'est tout. Il y a peut-être encore plus derrière. C'est sûr que je ne vais pas dire qu'il y a un... Voilà, je pourrais parler plus, je pourrais dire plus. À mon avis, mais ça va vraiment encore énerver tout le monde, mais je m'en fous, je le dis. C'est que, au fond, à travers en fait cette logique du Talmud, il y a comme une sorte de, peut-être même, on va dire, je vais dire de musicalité, mais quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire qu'il y aurait quelque chose, il y aurait quelque chose de transcendant à l'intérieur. Mais moi, si vous voulez, je pense que s'il y a une transcendance dans le Talmud, à chaque fois, encore pour revenir à ce lien avec un peu l'idée d'avant, c'est que cette transcendance, elle est liée à une rythmique, on va dire, à une rythmique. Voilà, c'est le meilleur que je pourrais utiliser, ou même on va dire un récit, à une rythmique, j'allais même dire une musicalité. Et au fond, donc en fait, c'est sûr que la logique à l'intérieur, c'est-à-dire comprendre la logique qui en fait, en tout cas, peut-être pas la logique, mais en tous les cas, des éléments de logique qui articuleraient cette rythmique, qui à mon avis font la magie du Talmud. C'est-à-dire, ce qui fait que le Talmud il est éternel, pourquoi les gens jusqu'à maintenant ils étudient le Talmud, etc., c'est à cause de sa rythmique. C'est pas à cause de ces idées, c'est pas à cause de... C'est, parce que sinon, il suffirait de lire Maïmonide ou n'importe quoi, ou plein de livres, en fait, qui... Tous les livres, en fait, c'est des livres... Le Talmud est très très mal écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait de on pourrait condenser les idées, les restructurer, en faire un livre très clair, et avoir les reproduire d'une manière beaucoup plus claire, d'une manière beaucoup plus structurée, d'une manière beaucoup plus explicite. Mais et ce qui fait que tous les livres qui ont essayé de faire ça, le livre de Maïmonide y compris, ils n'ont jamais marché, on va dire, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été suffisants, c'est parce qu'en fait dans le Talmud il y a une rythmique qui a l'air vraiment presque, on va dire, je vais dire du coup pour le coup mystique, mais il y a quelque chose de magique à l'intérieur, il y a quelque chose, voilà. Et cette magie, on va dire, à mon avis, elle a envisagée du côté de la logique. Maintenant, voilà. Pour moi, j'ai jamais fait d'études ni quoi que ce soit là-dedans. Et en fait, pour moi, c'était simplement une manière de lancer des choses. Pour moi, c'est un nouveau, peut-être quelque chose que voilà, je suis content de lancer ça à des gens qui ont justement fait des études mathématiques et qui ont travaillé sur la logique, pour que ce soit pour eux une piste de réflexion. C'était ça principalement. Pourquoi?
Non, c'est un peu indécent, c'est pour soufflure, mais j'ai envie quand même de réintervenir pour essayer plutôt là cette fois-ci de vous donner des choses. La première chose, c'est que s'il y a une réflexion interne à la logique sur qu'est-ce que c'est que la logique. Il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qui caractérise le geste logique, qu'est-ce qui distingue ce qu'on appelle une démonstration, sur quel type de symbole ça doit fonctionner, quel genre de structure ça doit afficher. Et en fait, c'est une question ouverte. Il y a sans arrêt des nouvelles propositions. Bon, il y a eu un très gros truc qui est le développement de la théorie de la démonstration dans les années 30, disons. Et c'est très important, mais en même temps, il y a plusieurs formalismes de présentation de ce que c'est que la théorie de la démonstration, et là-dedans, on voit une pluralité. Et puis, il y a des voies concurrentes qui se font, qui apparaissent. Par exemple, moi, j'ai lu récemment des travaux sur une présentation catégorique de ce que c'est qu'une démonstration, qui renouvelle le sujet. Et néanmoins, à l'intérieur de ces présentations, on a l'impression qu'il y a toujours l'idée que justement, une démonstration est une construction. Mais ce n'est pas une construction qui s'adresse à un domaine externe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la position du discours qui tente de traverser l'abîme pour dire la vérité sur un monde à l'extérieur de lui. Quand on est dans la déduction logique, ce qui se passe, c'est qu'il y a une construction qui élabore quelque chose en restant à l'intérieur de quelque chose. Et il faut caractériser le quelque chose à l'intérieur de quoi on reste, et qui est un espace symbolique, en gros. Bon. Donc ça, c'est pour dire que vous vous demandez quelle est la logique qui est derrière tous les actes de la pensée talmudique. Bah, au fond, les logiciens eux-mêmes se posent cette question, et plus intelligemment que les gens qui interrogent ça de l'extérieur. Moi, je fais toujours remarquer, par exemple, que Heidegger a toujours cru savoir ce que c'était qu'un calcul, alors que les logiciens ont posé la question « qu'est-ce qu'un calcul ?» dans les années 30, et ont donné au moins trois réponses hétérogènes, même si elles sont techniquement convergentes. Donc voilà, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est que je voulais essayer de vous suivre sur cette interrogation concernant le Talmud et votre réponse par le rythme. Et c'est vous qui êtes le savant, et j'ai aucune prétention à trancher, mais j'ai l'impression qu'il y a deux orientations. Il y a une orientation qui est l'orientation que j'appellerais romantique, qui est celle des gens qui disent, mais en fait, ce qui se passe dans, dans le Talmud, c'est pas cette logique pourrie sur laquelle l'Occident entier fonctionne, la logique aristotélicienne, voyons, on pense, le monde des nonas de Van Vogt, etc. Donc, on essaie de mettre le Talmud dans la même case qu'on met les poèmes d'Antonin Artaud, etc. Donc, c'est la grande guerre contre la méchante logique blanche, impériale, fixe, etc. Donc ça, c'est une des entrées sur le problème. Et il y a l'autre entrée sur le problème qui consisterait à dire, en fait, il y a une logique qu'on pourrait formaliser et qui serait implicite à ce qui se passe dans Talmud. Moi, ce que j'entends de votre réponse par le rythme, c'est une sorte de position intermédiaire. Ça consiste à dire que peut-être que ce qui se passe dans le Talmud, ça joue sur une idée d'une dissimulation profonde de ce qui est axiome, de ce qui est l'exacte délimitation des unités de sens sur lesquelles on fonctionne, et donc on ne peut jamais être dans la mise à plat de la grande science logicienne, puisque justement les choses ne sont pas mises à plat, et l'esprit talmudique il fait avec cette non mise à plat des données fondamentales. Donc il va y avoir des fulgurances qui nous permettent d'arriver à des résultats. Bon. Et en même temps, quand même, pour contrer la lecture romantique, il faudrait ajouter que dans l'après-coup de chaque passage du Talmud où on est arrivé à clarifier un point de loi, par exemple, on peut faire un graphe et expliciter selon la logique la plus standard tout. Et ça fait partie aussi de la grandeur, à mon avis, ce que j'en entends et ce que j'en comprends du Talmud, que en même temps, il fonctionne sur cette fulgurance et cette opacité, mais en même temps, il donne lieu à ces reconstructions. C'est peut-être un peu ce que vous appelez la rythmique. Alors, maintenant, je me tais vraiment.
Sauf s'il y a une réponse. Alors, merci beaucoup pour cette seconde partie. Alors moi, je ne suis pas forte en logique. J'étais très mauvaise en cours de dans les premières années de philo en logique. Pourtant, j'ai essayé, mais sans succès. Donc, je suis partie vers d'autres domaines. Cela dit, j'aime beaucoup Hegel. J'aime beaucoup la phénoménologie hegelienne et la dialectique hegelienne. Et il me semble, enfin, une des raisons qui fait que j'aime beaucoup la dialectique hegelienne, c'est parce qu'il y a une dynamique, il y a un mouvement qui tend à résoudre les contradictions qui ne peuvent pas se maintenir dans le temps. Ou alors dans le temps, ou même dans le sujet. Par exemple, il y a cette étape subjective qu'il appelle la conscience malheureuse, qui ne peut pas se maintenir dans le temps, sinon la conscience va rester dans une espèce de scepticisme. Il faut à un moment donné que le sujet se... qu'il y a un dépassement subjectif pour qu'il renoue avec le reste du monde, etc. Donc il y a un dépassement, il y a un mouvement, il y a un dynamisme dans la dialectique hegelienne, donc ce qui est très intéressant, ce qui fait que c'est pas figé. Et donc je pense, enfin il me semble aussi, enfin si on devait faire une différence entre cette dynamique là et la dynamique du Talmud, parce qu'il y a une dynamique du Talmud, vous y avez insisté, dans le judaïsme en général, il y a une dynamique. Il faudrait savoir est-ce qu'on peut identifier le moteur de la progression de la réflexion dans le Talmud ? Parce que le moteur de la progression chez Hegel, c'est le moment où il y a des contradictions, c'est le moment où il va y avoir une nécessité de dépassement. Donc est-ce qu'on peut trouver ce moteur-là ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y a une progression ? Par exemple, est-ce qu'il y a une progression ? Dans l'histoire chez Hegel, il y a une progression dans la réflexion, mais est-ce qu'il y a une progression dans le Talmud ? Parce que justement, ce que vous avez dit sur la musicalité est extrêmement intéressant et beau en plus. Évidemment, ça, il me semble que ça inspire, hein, c'est une source d'inspiration dès qu'on parle de musicalité. Et par exemple, il y a un mouvement, bon, je ne me connais pas techniquement, mais il y a un mouvement musical dans le boléro de Ravel, par exemple, qui est une espèce de spirale, qui n'est pas une espèce de progression linéaire, mais qui est une extrapolation comme ça d'un même thème, et qui fait qu'il y a une auto-accumulation dans le boléro de Ravel, et là, il y a une musicalité. Donc, je me demandais si, par exemple, dans le Talmud, il y aurait une musicalité similaire à cette extrapolation-là, qui serait une recomposition, une orchestration qui finit en majesté, puisque on a parlé de majesté aussi tout à l'heure. Est-ce que ce serait plutôt dans ce sens-là, puisqu'il n'y aurait pas une espèce de progression de type historique ou hegelienne dans le Talmud ? Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. Donc, je voulais savoir si vous aviez une idée de ce qu'était le moteur de la progression de la réflexion dans le Talmud, s'il y en a, si, s'il y en a une.
C'est exactement ça le point. En ce qui concerne la musicalité, je pense que c'est-à-dire ça revient en même, c'est-à-dire que je pense pas que ça serait comme le Boléro de Ravel, ou c'est-à-dire que dans la musique occidentale, c'est-à-dire il n'y aurait pas cette progression, on va dire, qui finit en majesté. C'est-à-dire dans le Talmud, ça finit pas en apothéose, en majesté, avec une coda à la fin ou un truc comme ça. C'est pour ça, on a l'impression de quelque chose justement, oui. C'est-à-dire que comme il dit, comme Zelensky l'a dit, en fait, on peut refaire le schéma, on peut arriver en fait à bien que les concepts n'ont pas été mis à plat au début, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais on peut continuer, en fait, là. On peut même continuer la structure logique. On peut avancer, mais c'est à savoir quel serait le sens. La question que vous demandez sur le moteur, c'est vraiment la question que je me pose au fond. Donc, j'ai pas de réponse. Mais c'est la question, c'est déjà un grand point d'avant de poser la question. Et quand ce qui concerne la réponse, c'est-à-dire la musicalité, je pense pas, en tous les cas, la seule chose que je peux affirmer, c'est que c'est pas une musicalité à l'occidentale où ça se terminerait en apothéose ou en surenchère, où terminer comme une sorte de pam pam, où on explose à la fin. Je sais pas, ça serait plus. Ça veut dire, ça serait beaucoup plus proche. Ça veut dire, moi, il y a deux choses, moi, au niveau de la musicalité du Talmud, les deux choses qui font le plus penser, c'est un, c'est sûr, c'est les tam-tams de l'Afrique. C'est parce qu'il y a un côté tac-tac-tac. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vu, hein. Ou, la musique asiatique aussi, vraiment dans le même genre. Ça veut dire comme quelque chose qui reste, vraiment, comme, on va dire, un air de flûte, on va dire, comme quelque chose, en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça serait plutôt quelque chose qui reste, en fait, qui termine pas en apothéose, avec une stratification de plus en plus gros, plus en plus grand, plus en plus gros. Non, c'est comme un discours qui continue à parler, comme quelque chose, comme l'idée qui viendrait plus, ça serait plutôt une analogie que le Talmud lui-même dit. Il parle d'un fleuve. Il m'a dit, quand vous étudiez le Talmud, il faut toujours l'étudier à côté d'un fleuve. C'est la Gemara qui dit, parce que comme ça, vous allez continuer à l'étudier comme un fleuve qui coule. C'est ça, à chaque fois, l'analogie qui est donnée. C'est la Gemara qui le dit elle-même. Donc, je sais pas. C'est ça, en tout cas, moi, c'est ce que ça me donnerait comme idée. C'est l'idée d'un fleuve qui s'écoule. Mais bon, c'est ça. J'aimerais bien pouvoir dire les choses plus claires.
Oui, je connais rien à la logique ni au maths non plus, mais sur la question de Rosenzweig, Hegel, peut-être, alors justement, vous avez dit, le Talmud dit, on étudier, ça se fait au bord d'un fleuve. Alors, il devrait peut-être ajouter le fleuve de Babylone, c'est-à-dire la dynamique. Oui, je veux en venir. C'est-à-dire que la dynamique, il y a une dynamique, effectivement. Il y a une dynamique, mais c'est une dynamique qui, naturellement, n'est pas la dynamique qui va être la dynamique chrétienne. Hegel, il hérite de la dynamique chrétienne qui est l'histoire, disons, en marche, qui est l'histoire de l'accomplissement de l'esprit. Or là, le problème, c'est que on est dans un autre chemin, et si le fleuve, c'est le fleuve de Babylone, c'est que le problème, c'est comme ça que moi, intuitivement, je comprends, disons, là non plus, je suis pas du tout savant, mais je comprends que le problème principal, c'est le problème de l'exil. C'est-à-dire de l'exil. Bon. Et ça, naturellement, l'exil, c'est pas la marche du monde. L'exil, c'est le problème. C'est d'abord le problème de la défaite, et avec cette contradiction gigantesque qui est, il y a une promesse qui est une promesse d'éternité, et en même temps il y a dispersion, et donc en fait il y a punition, il y a dispersion. Et donc, ce qui va impulser, et peut-être c'est comme ça que on peut lire donc la production rabbinique, qui est comment résoudre la contradiction. C'est une contradiction. On peut pas être élu, avoir passé une alliance avec Dieu, avoir une terre qui a été promise et se trouver en exil. C'est une contradiction. Et cette contradiction, c'est là-dessus, à mon avis, que porte... Alors, justement, avec les deux parties que tu dis, Michel, d'une part, naturellement, la question des lois, de la loi, c'est-à-dire que s'il y a exil, il y a punition. S'il y a punition, c'est que la loi n'est pas comprise. Donc, elle doit être étudiée. Donc, toute la production de la halakha, Elle prend sa source dans la contradiction de l'exil, puisqu'avant, effectivement, comme vous le disiez dans la première conférence, l'unité était faite par le temple, etc. Et en fait, ce que faisaient les gens, tout ça, ça pouvait être hétérogène, etc., puisque l'unité était formée de cette manière-là. Donc voilà, c'est la première chose. Et alors, ce qu'on appelle en général les fulgurances, ils n'ont pas trait à la... ne portent pas sur... disons sur la loi. La loi n'est pas objet de fulgurance. La loi, c'est trouver la meilleure solution. Et les fulgurances, elles portent sur le destin. Elles portent généralement sur le destin d'Israël. Donc c'est comme ça que moi je verrais plutôt la chose. Et c'est la raison pour laquelle il y a effectivement une tension très forte, mais une tension à l'intérieur de toute cette littérature, mais effectivement pas de dialectique, pas de dépassement, puisque en réalité c'est la Geoula qui est attendue, c'est-à-dire c'est la résolution soudaine de la contradiction qui est attendue. Alors ce qu'il faut faire pour meubler le temps, c'est ça tout le débat en fait qui agite qui a agité le judaïsme depuis toujours. C'est comment meubler le temps en attendant. Mais c'est mais ça porte ça, la généralisation, je veux dire,
c'est bien comme il dit, hein. Accomplissement du glaris, passer le temps quand on est dans la mer.
C'est sûr qu'a priori, est-ce que la pensée rabbinique du Talmud, la pensée rabbinique ou la pensée talmudique, c'est une pensée de l'exil? Je suis pas sûr, peut-être que dans la suite, en fait, des textes, si on arrive à la troisième partie, peut-être que j'en parle un peu plus, mais je pense pas en tous les cas que ce qui fait l'éternité, on va dire d'éternité ou la longévité du Talmud, etc., c'est simplement le romantisme de l'exil ou quelque chose comme ça, et que on fait du Talmud parce que comme on pouvait faire du tricot avant pour passer le temps, je sais pas, j'ai pas envie de citer enfin ouais, mais c'est
pas, je veux dire que c'est juste pour passer le temps, parce que c'est précisément c'est l'activité ouais. C'est la seule activité qui vaille. C'est pas du tout, je dis pas que c'est la seule activité qui vaille, puisque elle est générée par la contradiction, qui est la contradiction, on veut dire, historique, la contradiction historique.
Je comprends très bien tout ce que vous voulez dire. Mais ce que je veux dire, moi je pense que si on lit le Talmud vraiment d'une manière, honnête, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, les auteurs du Talmud ne sont pas en train de souffrir en exil, en train d'attendre la libération. Dans les textes du Talmud, à plusieurs fois, ils disent, mais ce passage du Dagmara qui est connu, qui dit qu'il vienne, mais pas de mon vivant. Ou d'autres choses pareilles. Ça veut dire, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas tout ce côté, en fait, de crise qu'en fait, on peut retrouver, par exemple, dans la Megillat Esther, ou qu'on pourrait retrouver après la Shoah, etc. On ne le retrouve pas vraiment dans le Talmud. C'est-à-dire, c'est pas un livre pour les juifs en exil, qui souffrent en exil.
On a la... En exil, et
pas tout à fait la oui, ok, qui même voudrait en sortir. Voilà, même en sortir. C'est même pas sûr qu'on attend le Messie dans l'exil. C'est-à-dire, on attend, on doit croire qu'il arrive, on doit croire qu'il va arriver, mais est-ce qu'on doit l'attendre? Ça a été une de nos passions. C'est pas marqué vraiment dans le Talmud qu'il faut l'attendre. Ça a été rajouté plus tard par Maïmonide et des auteurs pareils, mais dans le Talmud, il n'y a jamais marqué qu'il faut attendre le Messie. Donc c'est un gros point. C'est-à-dire, il n'y a pas cette idée là de ça veut dire voilà, on est en exil, on souffre et on écrit quelque chose pour survivre ou pour survivre, ou à travers une sorte de psychoanalyse ou de justification, comme vous, ce que vous voulez dire. Ce qui est une très belle lecture du Talmud, mais à mon avis, surtout en tant que rabbin, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus derrière. Je pense qu'en fait derrière il y a aussi la littérature rabbinique, ça veut dire, je pense, ça c'est un autre point, mais ça, qui est important, je pense qu'il n'y a pas en fait de rupture entre le Talmud et le judaïsme rabbinique et le judaïsme biblique. Je pense qu'en fait il y a une continuation entre les deux, et toujours, c'est une continuation revendiquée explicitement et à mort dans le Talmud. C'est on cite des versets, etc. Après vous allez dire, oui, mais on peut lire en fait la Bible comme l'annonciation de l'exil et blablabla, et que c'est déjà en fait la Bible, c'est aussi l'exil. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Non, ça veut dire, je ne crois pas. Et c'est-à-dire, je comprends que c'est une lecture possible, etc. Mais c'est-à-dire, voilà, on n'a pas l'impression, dans le Talmud, en fait, qu'il y a vraiment ce rêve de la délivrance, ce rêve de, c'est-à-dire cette attente vraiment, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à supporter de l'attente de la délivrance. Cette attente, elle est arrivée dans le judaïsme plus tard, elle est arrivée vraiment au Moyen-Âge, etc., quand l'exil est devenu beaucoup plus dur. Mais au contraire, quand on parle justement de Babylone, quand on voit les rabbins qui viennent d'Israël en Babylone, ils sont très très contents. Ils disent voilà, on peut acheter à manger pour rien du tout, et on peut vivre bien, et on peut étudier. Et ils avaient l'air de vraiment d'être contents là-bas. C'est on les croit au club Méditerranée. Ils n'ont pas du tout l'impression de dire mais quand est-ce que c'est fini, etc. Quand est-ce qu'on va retourner en Israël, etc. Il y a pas du tout cette contraire. Tous les passages du Talmud qui disent qu'il ne faut pas y aller, toutes ces histoires-là, on ne les sent pas qu'ils sont en train de souffrir, le martyr, et qu'ils écrivent ça parce qu'il faut survivre, et parce qu'il faut qu'on arrive à avoir une pensée à nous pour nous donner une identité ou quelque chose comme ça. Au fond, non. C'est-à-dire, on peut avoir cette lecture-là, c'est-à-dire, si on a cette lecture-là, c'est une lecture excessive, on va dire, ouais, je vais dire le mot, ouais, athée ou même laïque, en fait, du judaïsme, du Talmud, bon, moi je ne la partage pas, c'est-à-dire, le Talmud est écrit par des rabbins. Et qui était croyant et qui cherchait une certaine transcendance à travers l'écriture, à travers leur activité. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà.
Je suis désolé pour les questions. Est-ce que Rabbi Avia, je peux faire la troisième partie très rapidement?
Ok, d'accord. Okay,
on n'a pas les textes.
Ok, parce que j'ai
le droit de partir parce que je suis engagé à rentrer suffisamment.
D'accord, merci beaucoup.
J'espère qu'on va
bien
au revoir. Merci beaucoup.
J'espère que vous serez là.